Le dernier exercice qu'on vous propose de faire est un exercice qui continue dans la voie que nous avons déjà faite avec les deux précédents panneaux que vous avez élaborés, mais il est quand même différent parce que ce n'est pas exactement la même réflexion qu'on va essayer de faire. Et elle vient compléter ce qui a été fait avant, mais ce n'est pas limité, vous n'êtes pas obligé de vous limiter au premier panneau que vous avez fait. Vous en faites un nouveau sur cette base-là, mais aussi en élargissant la réflexion à d'autres éléments. On reprend le cercle qu'on a au centre du panneau, en rappelant simplement juste que ça, on identifie le pays et l'organisation, mais simplement juste pour savoir de quoi il s'agit. Mais ensuite, en donnant les 5 priorités dont on pense qu'elles peuvent profiter d'une démarche de l'EPU. Hein. Donc, c'est les priorités que nous voyons pour l'EPU. C'est notre propre réflexion à faire là-dessus. Donc, ce n'est pas simplement, ce n'est pas les 5 éléments qu'on prend en synthèse de l'examen précédent. C'est vraiment ce que soi-même on voit, ou que la société civile du pays voit comme étant les 5 priorités. Et pourquoi est-ce qu'on dit pouvant profiter de l'EPU? C'est-à-dire où on pense, rappelez, c'est toute la réflexion qu'on avait faite déjà auparavant. L'EPU est un processus politique. Et donc, il faut attendre de l'EPU là où on pense qu'une pression politique fait la différence. J'avais déjà eu l'occasion de reprendre cet exemple sur la Suisse, où il y a des éléments dont on peut discuter, qui posent problème, mais où une pression politique ne va pas faire une grande différence et c'est un peu du temps perdu. Ça ne doit pas être une priorité pour l'EPU. Par contre, il y a d'autres sujets, je l'avais mentionné par exemple la question des rapports qu'on peut, enfin la manière dont on peut traiter certaines catégories de personnes non ressortissantes suisses en Suisse, là il peut y avoir des choses il y a des choses à dire et à partager entre États. Donc de nouveau, c'est cette réflexion-là qui doit nous guider, ce qui est spécifique à l'EPU et qui est une réflexion différente de la réflexion qu'on mène pour les rapports avec les comités conventionnels. Là, la différence, elle est forte, elle est importante, il faut bien l'avoir en tête, d'où cette formulation, les priorités pouvant profiter de l'EPU. Et ensuite, ayant ça comme objectif, quelles sont les forces négatives que l'on a en haut et qu'on va prendre, donc qui vont nous contrer, l'idée étant qu'on essaie de faire monter nos sujets. Donc là, à nouveau, c'est une sorte de représentation graphique de ces questions qui sont des questions très abstraites. Donc on essaie de leur donner de les concrétiser par une représentation graphique. Quelles sont les forces négatives et quelles sont les forces positives? Et ensuite, l'impact de ces forces, parce qu'on peut en faire une longue liste. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire quelles sont celles qui ont le plus de poids. Et donc du coup, alors là, j'ai pas mis les noms parce que je voulais pas, là, je l'ai vraiment fait exprès, j'ai pas mis d'indication d'exemple parce que je voulais pas vous mettre sur des pistes qui correspondraient pas à votre réalité. Donc j'ai laissé ça tout à fait ouvert. Et c'est des choses qui éventuellement vous avez pas du tout marqué dans les précédents tableaux, ou peut-être que vous avez marqué parce que vous pensez que la coalition, c'est une force très positive, ou non, c'est un problème, il y a trop grande dissension parmi les ONG chez nous, et ça, c'est une force négative. Ça, par définition, je ne peux pas vous dire comment ça. Je pourrais le faire pour la Suisse, je pourrais le faire pour quelques pays sur lesquels j'ai travaillé, et encore, je pourrais le faire avec les gens du pays, les organisations du pays. Mais donc, c'est vraiment un bilan. Ce qui est assez intéressant ce type de travail, parce que là, on en profite pour partager avec vous certaines techniques qu'on peut utiliser à l'intérieur même des organisations, c'est que comme les précédents panneaux, c'est intéressant surtout quand on peut le faire de façon collective à l'intérieur de l'organisation, parce que ça engendre un débat, et puis ensuite, on doit essayer de trouver une représentation commune de la réalité qu'on est en train de décrire. Donc, en faisant ceci, un des points qui est important, c'est de justement évaluer le poids de ces différentes forces. Puis après, on peut faire la comparaison. Est-ce qu'on pense que l'on a suffisamment de forces de son côté ou pas? Et ça, c'est important pour déterminer la stratégie. Est-ce qu'il faut qu'on, dans la stratégie EPU, qu'on aille chercher encore d'autres forces? Ces autres forces, est-ce qu'elles doivent être à l'étranger? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a encore certaines des flèches, on se dit oui, elle est très fine, mais en fait, si on travaillait plus, on pourrait l'épaissir? Donc, on devrait, dans la stratégie, se concentrer là-dessus pour essayer de faire réussir au sein de l'EPU les 5 priorités qu'on essaye de faire avancer parce qu'on pense que ce processus politique peut les faire avancer. Alors, j'ai mis 5, mais si jamais c'est que 3, c'est que 3. Simplement, le problème... Donc, le chiffre 5 est tout à fait arbitraire. Mais c'est pas arrivé à 10, 12 ou 20 priorités parce que s'il y en a 10, il n'y a pas de priorité. Alors, voilà. Alors, 5, c'est un peu la limite... maximal. Maintenant, si vous en avez 6, vous en mettez 6, d'accord? Il n'y a pas, c'est pas un chiffre, il n'a aucune logique plus. On se dit qu'au-delà de 5, on commence à sortir de ce qui devient vraiment des priorités. Mais s'il n'y en a que 2, il n'y en a que 2. Voilà, donc c'est vraiment les réalités auxquelles vous êtes confrontés que vous mettez sur la table. C'est assez amusant parce que c'est l'exercice que j'ai dû faire dans l'interview tout à l'heure avec... donc Carole vous a dit qu'elle allait m'interviewer et c'est précisément la question qu'elle m'a posée. Donc c'est des questions assez concrètes auxquelles on peut être confronté. Donc voilà, alors on vous propose de faire cet exercice-là, de le mettre sur le panneau, les deux panneaux que vous avez déjà faits, donc comme on l'a fait précédemment. Roland va nous accompagner pendant ce processus et à la fin on va clore dans, qu'on va dire, environ 45 minutes, une demi-heure 45 minutes, avec un commentaire et une discussion avec Roland sur ces différents éléments. Si vous avez aussi des questions que vous voulez poser, Roland est une ressource importante en matière de stratégie sur les PU, donc n'hésitez pas à lui poser ces questions et de le faire en public, pas en privé, parce qu'on peut tous en bénéficier. Je repasse la parole à Josh, peut-être pour compléter ça et peut-être aussi préciser ce que j'ai pas assez bien expliqué, et il pourra le faire en anglais.
So now we're getting into the important element where we're actually engaging and identifying the main issues. So a lot of times with UPR, it's important to ask why. Just because the UN set up this process and UPR is happening, it's important for us to identify, and so it's generated from the people at the grassroots level, what do we hope to accomplish from this? What are the main goals? And then, of course, it's important, besides just identifying what is really important and what you hope to accomplish, it's also more importantly, what are the friends and foes who are going to, of course, work for and against you in doing this? And to be able to, you can see the different sizes of arrows. You know, you can look at the intensity of either positive or negative. There'd be really big enemies or there'd be really small allies, and you can then start to be able to really get comprehensive and bring it to life. This is the important phase now where you look at the different forces that come to play when trying to meet your aspirations of what to do and change at the national level, and more importantly, to be able to start then seeing how all those other aspects you identified in the foreign ministry, in the National Human Rights Institution, in the NGOs, in the university, who can maybe help. And so this is a very valuable tool. It's something that we even look at a lot in nonviolent movements, and we actually have something similar to this, where it's actually, you see a chart of a spectrum, and how can you then bring people to either neutralize them so they don't get active, or actually bring them closer to you if you potentially see there's potential ways to move forward. So just quickly, it's important to think about, in your countries, why you want to participate. We looked in, on our first day on Wednesday, we looked at Yemen, we looked at Macedonia, we looked at countries that are coming up, and identified, you're about to start really a 14-month process. What do you really want to see as your goal? And I think Eve brought up a great point. Sometimes you get questions from journalists of, what are you doing? And you're so involved in UPR, you're like, what do you mean, what am I doing? Of course it's important. There's all these countries, everybody does it. But to the rest of the world, it's, why do it? So it is important to figure out the priority. It's great also if you think about what Burkina Faso said when they were talking about funding. You know, you have to identify goals. And with human rights, sometimes it's hard to measure progress. So if you have your five issues that you're really aiming for and your priorities that you're moving forward, you can kind of see, well, we got two of them, and they're really important because they change something significantly in our society. We got one of them. That's good because the government wouldn't have done it before without that. So you can develop it that way. But what we really want to do now is give you enough time to be able to work through that in your countries that you've been working. And we've seen good collaboration where people come over and look at other people's poster. That's good, too. If you're stuck, you know, take a little walk around the room and be able to work together that way. So we'll let you get going with this one as well. And we already see Ukraine's working through it together. So we'll start there.
Juste un point technique à ajouter. Les forces, ce n'est pas uniquement des organisations, mais ça peut être aussi, si je prends un exemple pour la Suisse, l'absence de culture droit de l'homme. On a eu l'exemple qui avait été fait par un de nos politiciens qui avait été mentionné par notre ami de Mauritanie. Eh bien, ça, c'est clairement, cette absence de culture de droits fondamentaux, c'est clairement un point négatif. Donc, ça peut aussi être des choses très abstraites, hein. Ou alors des aspirations nationales de reconnaissance au niveau international, ça peut être une force. C'est ça qu'on en parle de force, hein. Donc, les forces, ça peut être des organisations, comme l'a très bien dit Josh, des alliés, mais ça peut aussi être des éléments tout à fait abstraits. Ça va dépendre de votre contexte. C'est juste pour que vous ne soyez pas limité dans la définition des forces. C'est vous qui savez définir ce que sont les forces par rapport à votre propre réalité, votre propre contexte. Voilà, alors on va commencer et on a une bonne demi-heure, 40 minutes devant nous. Merci.